les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités du jour en ce mardi 17 janvier 2017. Ça fait drôle d'ailleurs hein, quand on signe un chèque ou n'importe quoi, des 17-01-17. Alors aujourd'hui, les titres « Recrutement en milieu de la santé, une publicité jugée choquante ». Ce que révèle l'enquête ESSIMU sur la violence sexuelle en milieu universitaire au Québec. Le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer soulignait l'engagement des proches aidants. Et puis en Estrie, on recherche des bénévoles à Sherbrooke pour aider des aînés avec un déficit visuel. Par actualité nationale, le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick lance un projet pilote pour aider les personnes vulnérables à passer au travers de procédures judiciaires qui peuvent être intimidantes. Et puis à l'international, autisme en France, un état des lieux accablant. Deux entrevues encore aujourd'hui avec moi en studio, Stéphanie Levasseur, conseillère en accessibilité au Mouvement des Jardins, et également, je vais m'entretenir par téléphone avec Walter Zelaya, directeur général de Moelle Épinière et Motricité Québec. Alors, c'est une nouvelle d'Ariane Lacourcière sortie dans la presse, une toute nouvelle campagne de recrutement lancée hier par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le MSSS, et intitulée « Deviens expert en humain, choc », plusieurs syndicats de travailleurs. Dans l'une des deux capsules vidéo mises en ligne sur le site Avenir en Santé, un jeune sportif dit que sa carrière de rêve est de devenir joueur de basketball professionnel, mais que puisqu'il aime aussi aider les gens, il pourrait travailler en santé. Les images montrent ensuite le jeune homme qui effectue un lancer plus que raté de ballon vers un panier de basketball, apparaît alors la mention « On t'attend en santé ». La seconde capsule diffusée hier par le MSSS lance le même message. Cette fois, c'est une jeune femme qui est munie d'une guitare qui est mise en scène. Elle dit rêver de devenir chanteuse professionnelle, mais elle aime aussi écouter et comprendre les autres et pourrait travailler en services sociaux. La jeune femme pousse ensuite la note de façon cacophonique avant que n'apparaisse la mention « On t'attend en services sociaux ». Qu'est-ce que ça envoie comme message? Que si t'es poche dans ce que tu rêves de faire, tu devrais venir en santé. Je suis sous le choc, critique le président de la Fédération de la Santé et des Services sociaux, FSSS, trait d'union CSN, en ce qui concerne l'acronyme. Il s'appelle Jeff Begley, qui juge ce message réducteur pour les employés du réseau. Ce message ne leur rend pas justice, dit-il. Il explique que les travailleurs de la santé sont des gens passionnés. Je ne crois pas que ces publicités vont permettre de recruter plusieurs travailleurs. Gaspiller l'argent du public pour envoyer ce message, c'est terrible. Au ministère, on explique que la campagne Avenir en santé existe depuis 2009 et qu'elle vise la promotion des carrières en santé et services sociaux et que le public visé par cette campagne, eh bien, est les jeunes de 15 à 17 ans en processus de choix de carrière et les jeunes de 18 à 24 ans pouvant être en processus de choix de carrière, de retour aux études ou de réorientation de carrière. Ce que révèle l'enquête ESSIMU sur la violence sexuelle en milieu universitaire, c'est lundi qu'a eu lieu le dévoilement des résultats de cette étude « Sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire, l'ESSIMU ». Ce qu'en disent les étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes et employés, au féminin et au masculin, en présence de plusieurs membres des milieux universitaires, communautaires et gouvernementaux, dont la ministre responsable de l'enseignement supérieur, Madame Hélène David, et la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour le Parti Québec solidaire, Madame Manon Massé. Alors, c'est une première au Québec et cette étude a été menée par Manon Bergeron, professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM donc. Et ça regroupe 12 chercheurs provenant de 6 universités québécoises, l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec à Chicoutimi. 70% des étudiants, soit 9200 personnes, ont participé à cette étude. Les résultats? Plus du tiers, donc presque 40% des répondantes et répondants, ont rapporté au moins une forme de victimisation sexuelle commise par une autre personne affiliée à l'université depuis leur entrée dans cette université. Chez les personnes ayant rapporté des situations de VSMU, qui est l'acronyme, 41,8% ont vécu deux ou même trois formes de VSMU. Et puis, certains groupes sociaux semblent davantage exposés. Les femmes, les individus issus de minorités sexuelles et de minorités de genre, les personnes déclarant avoir un handicap ou un problème de santé ayant un impact dans leur vie quotidienne et les étudiantes et étudiants de l'international. Alors, l'équipe SIMU estime qu'il est incontournable de nommer certains principes qui permettront de contrer la violence sexuelle en milieu universitaire. Parmi ces principes, mentionnons la reconnaissance de toute situation de violence sexuelle comme étant une VSMU lorsqu'elle implique des personnes affiliées à l'université et peu importe leur statut d'employé ou d'étudiant. Les auteurs de l'étude soulèvent également l'importance de favoriser le sentiment de justice chez les victimes et de considérer la violence sexuelle comme une question de pouvoir et de contrôle et agir dans une perspective de tolérance zéro. Alors, j'accueille en studio et je la remercie beaucoup de s'être déplacée, Madame Stéphanie Levasseur. Bonjour, Madame Levasseur.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en accessibilité au mouvement Desjardins.
Oui,
c'est-à-dire.
Et en fait, je suis ergonome de formation. J'ai fait une maîtrise en ergonomie du logiciel à l'École Polytechnique, où j'enseigne depuis 2009 l'accessibilité du web. Puis, au cours de ma carrière, je me suis intéressée de plus en plus à l'accessibilité numérique. D'ailleurs, l'ensemble de mes travaux à l'université était davantage axé sur les clientèles de l'accessibilité. Mon mémoire de maîtrise portait sur la rééducation avec la console Nintendo Wii, sur les gens qui ont subi un AVC.
Oui. Oui,
donc, ça a été fait à l'Institut Lucie Bruno. Donc, j'ai un très grand intérêt, c'est ma passion pour l'accessibilité numérique.
Et pourquoi donc? Ça vient d'où? Ça vous vient d'où?
Je pense que dans l'ensemble, les causes sociales m'intéressent beaucoup.
D'accord.
Mais je crois beaucoup aussi à l'inclusion sociale, au fait qu'il faut inclure... En fait, comme ergonome, normalement, on doit répondre aux besoins de l'ensemble des utilisateurs et les clientèles d'accessibilité font partie de ces utilisateurs également.
Alors, quels sont les enjeux les plus importants?
Bien, je pense qu'essentiellement, comme dans bien d'autres domaines, la méconnaissance est un enjeu important. On a beaucoup de difficultés à comprendre l'accessibilité si on n'a pas autour de soi des gens qui sont en situation de handicap. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu important. On voit avec l'arrivée des différentes réglementations depuis 2010, essentiellement, notamment la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées de l'Ontario, que de plus en plus, il y a des réglementations qui sont en vigueur et en cours de réalisation au Canada, dans les provinces, mais également avec les audiences publiques du gouvernement du Canada, les audiences publiques qui se terminent en février d'ailleurs. Donc, de plus en plus de réglementations qui poussent les organisations inévitablement malheureusement,
agir, mais oui.
Exactement, c'est toujours la première petite chose qui pousse les organisations à réagir.
Mais évidemment,
oui, heureusement, mais évidemment aussi le vieillissement de la population.
Oui.
Dans 10 ans, bon, une personne sur 5 va être âgée 65 ans et plus, donc les personnes âgées ne sont pas nécessairement handicapées, mais le vieillissement naturel entraîne différents types de limitations.
C'est clair.
Donc, puis les enjeux, en fait, je pense que c'est beaucoup de voir l'accessibilité comme un critère de qualité. Autant dans les années 90, par exemple, on disait « je suis ergonome », puis on disait « ah, vous êtes agronome, vous travaillez sur une ferme ». En fait, non, aujourd'hui, on ne se permet plus de faire des sites web sans ergonome. Et je pense que l'accessibilité, tranquillement, se ferait un chemin. Au même titre que l'ergonomie l'a fait. Puis on peut voir l'accessibilité de plus en plus comme un ensemble de bonnes pratiques. Dès qu'on a des ergonomes qui font des projets au niveau du web, des rédacteurs qui intègrent les bonnes pratiques, des infographes qui intègrent les bonnes pratiques et la programmation également qui est faite de façon adéquate en suivant les standards internationaux de programmation du W3C, on s'assure d'avoir un bon niveau de qualité au niveau de l'accessibilité.
Et vous êtes assuré personnellement, mais avec une équipe, j'imagine, que justement le niveau d'accessibilité du Mouvement Desjardins soit assez élevé. C'est bien ça? Alors, vous en êtes où en ce moment?
Bien, en fait, j'ai fait quelques choix parmi l'ensemble des choses qu'on a fait.
D'accord.
Tout d'abord, je tiens à dire que pour nos guichets automatiques, nous avons été la première institution financière à offrir des instructions vocales. Et actuellement, nous sommes en refonte, donc nous allons avoir des nouveaux guichets automatiques et c'est clair que l'accessibilité, c'est important et qu'on va offrir le même niveau, sinon plus. Sinon, en 2007, l'Institut Nazareth et Louis Braille nous ont donné le prix du meilleur site financier au Canada pour les personnes malvoyantes, pour Desjardins.com.
Bravo.
Donc, ça, c'est vraiment une belle réalisation. Sinon, on a eu un coopératon qui est un hackathon où des petites équipes, pendant un certain laps de temps, doivent réaliser des projets. Il y avait trois thématiques, santé, fintech, donc les finances et les technologies, et ville intelligente. Et il y a deux prix qui ont été décernés dans la catégorie ville intelligente pour des projets en lien avec l'accessibilité. Donc, ça, c'est vraiment une belle réussite également. Et on a un kiosque mobile de Desjardins, qui est un autobus aménagé qui peut se déplacer pour des événements ou dans une entreprise comme à la Société des Transports de Montréal, qui peut être en support aussi pour des événements comme... il y a une caisse qui il y a eu un incendie et qu'elle ne pouvait plus desservir ses membres. Donc, le kiosque mobile a pu pallier pour aider.
Je vais peut-être lancer un petit pavé dans la mare. Est-ce que vous avez un genre de camion mobile comme ça? Parce qu'on sait quand même, et on en a parlé beaucoup depuis ces dernières années, qu'il y a énormément de guichets qui ont fermé. Et notamment en région éloignée, ben, ça crée des problèmes, notamment pour les personnes handicapées ou pour les personnes âgées, pour les gens qui ne sont pas motorisés. Ce serait une bonne idée, ça, peut-être, d'aller créer des espèces de camions ambulants qui viendraient. Non, mais je ne sais pas, est-ce que c'est une possibilité?
Oui, bien, tout à fait. En fait, dans le projet, oui, c'est ça. Dans le projet pilote, déjà, il était prévu de visiter, entre autres, des résidences de personnes âgées.
D'accord.
Donc, qui ont plus de difficultés à se déplacer en caisse. Et ça a été fait à Saint-Hyacinthe. Et on pense éventuellement avoir... potentiellement plus d'autobus pour desservir.
Oui,
donc, en parlant justement, en allant en région où on parlait des fermetures d'institutions, c'est sûr que ça a été accueilli favorablement d'avoir un kiosque comme ça qui puisse se déplacer sur place. Oui.
Parce que c'est vrai que quand on parle d'accessibilité, c'est quand même un souci, quoi, cette fermeture-là. Et puis en même temps, j'imagine, on comprend aussi Desjardins, j'imagine qu'il y avait des choix à faire, mais... Nous, quand nous, on pense tout de suite à accessibilité, on pense toujours à nos auditeurs et je sais qu'il y en a qui ont très, très peur. Quoi.
Les autres canaux peuvent également répondre aux besoins, comme les solutions en ligne ou par téléphone, mais c'est sûr que des fois, quand on veut rencontrer quelqu'un, le fait qu'il y ait un kiosque qui se déplace, ça peut être vraiment bien.
Oui, mais les ordinateurs ne distribuent pas encore de billets. Hein.
Non, c'est vrai. Mais ça devrait arriver éventuellement.
Il nous reste une minute ou deux et encore, mais oui, on va les prendre. Quels sont les principaux obstacles et comment on peut les vaincre, Stéphanie?
Oui, en fait, les obstacles, comme je disais, c'est beaucoup la méconnaissance. Je pense qu'il y a un volet sensibilisation, éducation qui est très important. Par exemple, chez Desjardins, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un comité accessibilité multidisciplinaire composé de gens de différents corps de métier dans le domaine du web et de différentes unités d'affaires. Et on a créé nos propres normes d'accessibilité pour nos solutions en ligne. Donc, on a pris le standard du W3C, le Web Content Accessibility Guidelines, et on a décliné pour Desjardins ces règles-là. Donc ça a permis de s'approprier le sujet et de l'adapter à notre réalité d'entreprise. Souvent, dans les obstacles aussi, on pense que c'est coûteux. Mais en fait, c'est pas plus coûteux si on prend en charge l'accessibilité en début de projet. Il n'y a pas vraiment de coût additionnel. C'est quand qu'il faut ajouter l'ascenseur dans le métro que ça coûte cher.
Ouais.
Mais si on le prend en charge au début, il n'y a pas vraiment d'enjeu comme tel. Et je pense, comme je disais, c'est beaucoup de la qualité. Donc, pour démystifier la chose, si on comprend que c'est de la qualité, que c'est un ensemble de bonnes pratiques, c'est pas plus compliqué, il suffit juste d'intégrer nos bonnes façons de faire dans nos solutions.
Avant de vous laisser aller, je vois qu'il y a quelques petites fiches sur lesquelles vous êtes du coup passé très vite. Allez, je vous donne un petit 30 secondes pour, si vous voulez rajouter quelque chose d'important au sujet de l'accessibilité, puisque c'est de cela dont il est question aujourd'hui avec Stéphanie Levasseur, qui est conseillère en accessibilité au Mouvement Desjardins.
J'aimerais aussi parler du fait que chez Desjardins, on a engagé une personne malvoyante qui utilise un outil de grossissement dans un centre d'appel et une personne aveugle. Donc, elle répond à des appels avec son lecteur d'écran. Et on a engagé aussi deux personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme.
Oui, oui.
Donc, dans le secteur technologie. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça a été fait en collaboration avec la haute direction. Donc, c'est vraiment super. Sinon, au niveau du web et mobile, qui est davantage ma spécialité, la charte graphique de Desjardins, donc les contrastes de couleurs, sont déjà pensés pour l'accessibilité. On fait des tests avec des lecteurs d'écran. On a fait des tests aussi avec des personnes, des clientèles de l'accessibilité, donc des personnes aveugles, des personnes malvoyantes, même un monsieur avec un bâton buccal à mobilité réduite, pardon.
Donc,
on s'assure de valider nos solutions avec les publics visés.
En tout cas, l'effort est là. L'effort est là et il y a déjà plusieurs résultats. Alors bravo, je vous remercie beaucoup pour cette belle motivation-là, Stéphanie Levasseur. Et puis, passez une excellente fin de journée.
Merci, pareil.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, dans le cadre de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées, l'Appui Mauricie a lancé le 15 janvier sa campagne sous le thème « Les proches aidants aussi sont touchés par la maladie d'Alzheimer ». La campagne de l'Appui Mauricie sera déclinée en affichage dans la ville de Trois-Rivières et la coop santé de Pointe-du-Lac, en publicité télé, radio et sur le web. La campagne sera accompagnée du mot-clic dièse, ensemble pour les aidants, voilà, par lequel les gens pourront témoigner de leur expérience en tant que proches aidants ou témoigner leur solidarité à ceux-ci. L'objectif de la campagne de sensibilisation est de conscientiser la population à la réalité des proches aidants qui s'occupent d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Cela représente près de 142 000 personnes touchées par ces maladies au Québec. Cette campagne de sensibilisation est réalisée en partenariat avec Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer, qui tout au long du mois de janvier réalisera des activités d'information et de formation en lien avec la maladie. L'Appui pour les proches aidants d'aînés profite de l'occasion pour saluer l'engagement et le travail des proches aidants qui viennent en aide à une personne aînée, qu'elle soit atteinte de la maladie ou en perte d'autonomie. Au Québec, ce sont plus de 1,13 million de personnes qui donnent tant, soins et soutien sans rémunération à une personne aînée atteinte de la maladie d'Alzheimer ou en perte d'autonomie. Et puis, rapidement, on recherche des bénévoles à Sherbrooke pour aider des aînés avec un déficit visuel. Un projet est en cours pour augmenter la participation sociale des aînés qui ont un handicap visuel. Vous savez, ces gens qui pourraient tout simplement avoir le goût d'aller marcher ou de casser la croûte au restaurant. Ce sont les aînés eux-mêmes qui choisiront ce qu'ils ont envie de faire, ajoute Mme Levasseur, qui est à l'origine de ce projet-là. Les accompagnateurs et les aînés passeront 3 heures par semaine ensemble pour une période de 9 à 12 mois. Ça nous vient de ici Radio-Canada Estrie. J'imagine que si on passe par le centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrie, CHUS, eh bien on pourra avoir toutes les informations. Et puis, je m'entretiens avec plaisir à nouveau avec Walter Zelaya, directeur général de Moelle Épinière et Motricité Québec. Vous n'êtes pas de très bonne humeur en ce moment, Monsieur Zelaya.
En effet, écoute, je suis de bonne humeur, mais effectivement, il y a certaines personnes ou certains organismes avec lesquels on n'est pas content.
Non, c'est ça. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas content en ce moment? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bien, écoutez, actuellement, la Commission des finances publiques tient des auditions présentement jusqu'à jeudi de cette semaine. Et oui. Cela, ça a été lancé en vitesse le 21 décembre dernier. Mm-hmm. Ce sont des auditions particulières. Donc, ça veut dire que c'est juste quelques organismes qui ont été invités. Et même ces organismes qui ont reçu les invitations, plusieurs ont décidé de ne pas y participer parce qu'ils n'ont pas le temps de se préparer. Or, bon. C'est quand même quelque chose de très important qui se passe, oui. Les sujets qui est abordé.
Alors, quel est ce sujet-là?
Bien, écoutez, ça aborde le sujet, ça concerne les retraites du Québec. Mm-hmm. Et notre organisme, depuis plus de 5 ans, a fait plusieurs interventions auprès du gouvernement pour justement dénoncer le fait qu'il y a une pénalité importante qui est imposée aux personnes qui sont sur les rangs d'invalidité une fois qu'ils arrivent à 65 ans. Mm-hmm. Donc, on impose la même pénalité qu'une personne qui a pris une retraite anticipée.
Mais oui.
Ça, c'est depuis quelques années. Nous dénonçons ça. Nous voulons que cela change. Donc, on avait dit au gouvernement, on voudrait se faire entendre sur cette question-là. Et depuis des années qu'on nous dit, il va y avoir des consultations. On attendait ces consultations en 2015.
Et vous n'avez pas été invité.
Il n'y en avait pas. Et finalement, on les annonce en vitesse. Et nous, on n'est même pas invités.
Et il n'y a rien à faire.
C'est-à-dire qu'actuellement, ce que nous demandons à toutes les personnes, c'est d'écrire, d'envoyer un petit mémo au ministre des Finances et d'envoyer aussi à la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Les gens peuvent rentrer en contact avec nous pour leur dire qu'on voudrait que les auditions soient prolongée pour que les citoyens, pour que la population puisse s'exprimer.
Exactement.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous avons déjà une mémoire type que ceux qui adhèrent à notre vision puissent les envoyer. Ils ont jusqu'à vendredi pour les envoyer. Ils peuvent communiquer avec nous autres. Ils n'ont qu'à mettre leur nom ou bien faire des modifications s'ils le veulent bien, mais ils pouvoir les envoyer. Nous croyons important quand même, malgré la place très serrée que nous laisse le gouvernement, de faire notre effort et nous exprimer sur cet enjeu-là qui est extrêmement important parce que il va appauvrir, il continue à appauvrir davantage les personnes ayant des limitations.
Alors, comment peut-on vous aider? Alors, en communiquant avec vous, est-ce que c'est simplement memo-trait-d'union.qc.com?
Oui, c'est moellepinière.com pour faciliter.
Ah, moellepinière.com. D'accord, moellepinière.com.
Exactement.
D'accord.
Et également, peuvent aller sur notre site Internet, donc là, moellepinière.com. Sinon, le numéro de téléphone, c'est dans les 54, les 341-7272. Et puis, nous sommes prêts à soutenir les personnes dans le processus. Mm-hmm. Et nous, on dit, c'est quand même important que les personnes qui travaillent avec les personnes vivant avec des limitations et les personnes même qui vivent avec des limitations puissent se mobiliser.
Bien sûr.
C'est un enjeu important.
Mais je comprends parce que c'est tellement pas démocratique leur affaire. Enfin, ils se sont basés sur quoi pour inviter des groupes et pas d'autres? Enfin, c'est fou.
Oui, tout à fait. Mais c'est un droit qu'ils peuvent se donner les commissions qui consultent. Mais en général, sur des enjeux importants, on donne quand même des temps, beaucoup plus de temps pour pouvoir s'exprimer et de pouvoir écouter. Les documents ont été déposés pendant la période des fêtes. Il faut réagir à ces documents gouvernementaux. C'est une démocratie, mettons, à une vitesse extrêmement accélérée que la population ne peut pas suivre à ce rythme-là.
Alors, Walter Zelaya, qu'est-ce que vous leur demandez exactement? Que doit faire le gouvernement pour rééquilibrer les prestations RRI-RRQ?
Alors, ce que nous demandons, c'est simple. Nous voulons que les bénéficiaires des régimes d'invalidité ne soient plus soumis à la pénalité découlant de la modification de 97 lorsque ces personnes-là atteignent 65 ans. Et cela inclut ceux qui reçoivent actuellement une rente réduite à la suite de la pénalité. Et de un, et de deux, nous demandons que les bénéficiaires qui sont déjà victimes de cette pénalité reçoivent un remboursement rétroactif des pertes encourues.
Mais oui. Mais écoutez, Walter, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir gain de cause et pouvoir participer à ces consultations?
Bien, écoutez, comme disait quelqu'un pour philosopher, il faut aimer passionnément les causes perdues d'avance. Alors, nous, on continue à se battre. C'est par des principes qu'on les fait. Et nous, on dit, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas lâcher. C'est tout ce qu'on se dit. Nous, on continue à nous battre. Nous croyons que ce que nous défendons est juste. Et c'est ça qui nous motive à continuer.
Écoutez, c'est tout à votre honneur. Walter Zelaya, directeur général de Moelle-Épinière et Motricité Québec. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions ce matin.
Merci, au plaisir.
Bonne journée. Actualité nationale, le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick lance un projet pilote pour aider les personnes vulnérables à passer au travers de procédures judiciaires qui peuvent être intimidantes. Des bénévoles seront formés et jumelés à des personnes avec un handicap physique, mental ou intellectuel, ainsi qu'à des enfants. Les bénévoles choisis pourront aussi être appelés à venir en aide à des personnes qui ont été victimes de crimes comme la violence familiale. Des programmes semblables ont déjà été mis en place ailleurs au pays. L'objectif est de compléter ce qui existe déjà dans le système judiciaire, selon Miranda McLaughlin. Les bénévoles pourront aider les personnes de diverses façons, comme leur expliquer comment se déroule une procédure judiciaire, répondre à leurs questions, les accompagner lors d'une comparution en cours ou pendant un témoignage. Actualité maintenant par actualité internationale. L'état des lieux de la prise en charge des troubles de l'autisme est accablant pour la France. D'abord, il y a le problème du diagnostic, explique au Figaro Florent Chapelle. Certains parents doivent attendre 5 ou 10 ans pour avoir un diagnostic en France, donc une prise en charge adaptée. Car s'agissant d'un trouble où les interactions sociales sont perturbées, il y a bien nécessité d'une prise en charge précoce et intensive, sinon c'est la régression. Heureusement, des centres experts, comme ceux du réseau fondamental mis en place par le professeur Marion Leboyer, ont ouvert la voie à une psychiatrie basée sur la science. Il reste le problème de fond des fondements psychiatriques et psychanalytiques de la prise en charge. La prédécesseure de Mme Neuville en charge du handicap, Marie-Arlette Carlotti, l'avait annoncé. En France, depuis 40 ans, l'approche psychanalytique est partout. Elle concentre tous les moyens. Il est temps de laisser la place à d'autres méthodes pour une raison simple. Ce sont celles qui marchent et elles sont recommandées par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Sans la résistance des psychiatres français, les recommandations de la HAS auraient dû faire basculer la situation. Il suffit d'aller sur le site de l'INSERM où le professeur Catherine Barthélémy, chef de service honoraire du service de pédopsychiatrie au CHU Bretonneau de Tours, l'explique. L'imagerie médicale a permis de mettre en évidence des anomalies cérébrales chez certains patients, notamment dans les régions du cerveau impliquées dans le langage et la cognition sociale. La biologie moléculaire a quant à elle conduit à l'identification de nombreux gènes dont l'altération semble conduire à une plus grande susceptibilité à l'autisme. Le problème, explique Florent Chapelle, c'est qu'il reste des grands pontes, la vieille garde prétorienne freudienne, qui sont encore empreints de l'idée qu'il s'agit d'une psychose infantile, même s'il n'ose plus dire que l'autisme est la faute de la mère. Je vous parle de la situation de l'autisme en France. Dans une première version de ses recommandations, la HAS classait d'ailleurs la psychanalyse dans les interventions non recommandées ou non consensuelles, mais les psychiatres avaient obtenu in extremis la création d'une rubrique distincte, non consensuelle, comme l'avait révélé le Figaro. Une concession malheureuse qui assure depuis la survie de cette approche largement disqualifiée dans le reste du monde. En 2010, la HAS observait déjà, en analysant les 4 recommandations internationales existantes sur l'autisme, que 2 déconseillaient la psychanalyse, en Espagne et en Nouvelle-Zélande, et les 2 autres, aux États-Unis et en Écosse, ne la citaient même plus. Le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval a le plaisir de vous inviter à son premier speed dating le 14 février 2017 à 13h30 au Cosmodôme de Montréal. C'est au 2150 autoroute des Laurentides. Cet événement a pour objectif de permettre aux différents acteurs œuvrant pour les personnes avec des limitations fonctionnelles sur le territoire de Laval de se rencontrer. C'est un rendez-vous inédit. Il suffit de communiquer avec le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval, autrement dit le ROPPH de Laval. C'était les Paractualités animées par Clotilde Seille. Merci à toute l'équipe. Bonne journée à vous. À demain 11h30.